Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Sunlight Production. Nous le savons tous, le sucre a la réputation d'être particulièrement addictif. Par exemple, chez les jeunes enfants, l'envie de sucre est presque innée. D'ailleurs, avez-vous remarqué à quel point certains d'entre eux peuvent être comme assoiffés de bonbons, de lait concentré ou encore de jus de fruits ? Cela peut même inquiéter certains parents qui se sentent parfois désarmés face à cette envie toujours plus grandissante de leur tout petit. Il semblerait que dès la naissance, nous avons une préférence naturelle pour le sucre en raison du lait maternel et de son goût sucré. De plus, dans l'histoire de l'humanité, la nourriture n'a pas toujours été aussi abondante. Les aliments sucrés offraient donc un avantage évolutif considérable pour les premiers êtres humains, des calories qui étaient indispensables à notre évolution. Selon les scientifiques, c'est probablement la raison pour laquelle les enfants et les adolescents sont aussi attirés par le sucre et délaissent le plus souvent les aliments amers qui, eux, étaient plus susceptibles d'être toxiques s'ils les avaient trouvés dans la nature. Notre attirance pour le sucre serait donc probablement inscrite dans nos gènes. Mais du coup, pouvons-nous continuer à être autant accro au sucre même en grandissant ? Sur internet, on peut trouver beaucoup d'études comparant le sucre à certaines drogues dures en matière d'accoutumance. Depuis le début de ce podcast, j'ai aussi reçu beaucoup de témoignages de personnes qui pensent avoir développé une sorte d'addiction avec cet aliment. Si le sucre est vraiment comparable à une drogue dure, cela pourrait être une catastrophe dans les années à venir avec l'augmentation de la surconsommation de sucre. J'ai donc envie de mener l'enquête sur les risques de dépendance face au sucre. C'est la raison pour laquelle je suis parti à la rencontre du docteur Sarah Koskas, psychiatre addictologue au Centre d'études de recherche et de traitement des addictions à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. J'ai énormément de questions à lui poser, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça avec moi. Bonjour docteur Koskas, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation et de répondre à mes questions. Je suis sûr que vous allez pouvoir m'aider à comprendre un peu mieux la relation qu'on entretient avec le sucre dans notre alimentation. C'est vrai que c'est un sujet qui préoccupe de plus en plus de monde et moi le premier. Et donc j'ai plein de questions à vous poser. Alors vous êtes une psychiatre spécialisée en addictologie et l'addiction c'est un sujet complexe avec une multitude de représentations aussi bien morales que sociales et qui touche à des notions de plaisir et d'interdit. Alors c'est un sujet avec énormément d'enjeux parce qu'on estime aujourd'hui que 20% des causes de mortalité sont liées à des phénomènes d'addiction. Alors déjà pour que les choses soient peut-être plus claires pour tout le monde, vous en tant que psychiatre, comment vous définiriez l'addiction et quel type de patient vous êtes amené à recevoir en consultation ?
Alors déjà, c'est très important en effet de redéfinir les choses puisque le terme addiction est utilisé à tort et à travers et notamment même sur des paquets de bonbons, des paquets de chewing-gum. Donc c'est important de rappeler qu'une addiction c'est une maladie. Hein, c'est une maladie, c'est une perte de contrôle de la consommation d'une substance ou d'un comportement qui engendre des conséquences négatives sur un temps suffisamment long. Hein, il faut quand même qu'il y ait une certaine durée. Si on n'est pas addict, si on fait un comportement où on a une consommation inhabituelle pendant un mois ou deux, il faut que ça a une certaine notion de durée, que ça ait des conséquences, qu'il y ait une notion surtout essentielle, c'est de perte de contrôle. C'est-à-dire que on peut faire quelque chose, consommer quelque chose qui n'est pas bon pour la santé ou qui est dangereux. L'addiction, c'est la perte de contrôle de ce comportement ou de cette consommation qui engendre des conséquences négatives. Alors c'est pas, il faut aussi bien être clair sur cette notion de perte de contrôle. Il y a aussi beaucoup d'autres éléments qui doivent être ajoutés pour caractériser ce qu'on appelle aujourd'hui un trouble de l'usage, avec un phénomène de tolérance, notamment le fait de devoir augmenter les quantités pour avoir le même effet, hein, une sorte d'accoutumance, avec des conséquences sur toute la vie du sujet. Moi, je m'occupe principalement des addictions liées aux substances. On a très peu de demandes de consultation d'addiction au sucre précisément. C'est souvent un trouble qui est associé, sur lequel que l'on va rechercher et que l'on va éventuellement accompagner lors de la prise en charge. Mais il faut qu'il y ait des répercussions énormes sur la vie du sujet pour vraiment parler de pathologie.
D'accord, donc on s'aperçoit que l'addiction, ce n'est pas un terme à prendre à la légère, c'est une maladie avec des conséquences qui peuvent être très graves sur la vie des personnes. D'ailleurs, j'ai lu récemment un article du Figaro Santé qui titrait, je cite, « Le sucre présente un potentiel addictif aussi important que l'alcool ou la cocaïne ». Alors j'ai l'impression que depuis les années 2000, il y a une sorte de prise de conscience du potentiel danger du sucre sur notre santé physique et psychologique, et de plus en plus de monde assimile le sucre à une drogue. Pourtant, quand on observe les effets du sevrage, par exemple, chez les toxicomanes par rapport à des personnes qui suivent un régime sans sucre, et c'est mon cas actuellement, même si il y a effectivement des petites similitudes, il y a quand même des différences qui sont très notables. Alors, est-ce que pour vous, la comparaison sucre-cocaïne, est-ce qu'elle est appropriée selon vous ?
Elle est dangereuse. Elle est dangereuse et je pense pas appropriée. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur l'existence réelle d'une addiction au sucre, c'est-à-dire addiction au sucre, hein, avec le terme addiction, pour comparer aux autres substances psychoactives. Aujourd'hui, on est plus à affaire à un trouble de la consommation qui face à un produit qui est quand même assez différent, hein, on ne peut pas comparer le sucre au cannabis, à l'alcool. Alors certes, il procure du plaisir et c'est là où forcément on s'en mêle un peu les pinceaux. Le sucre est une source certaine de plaisir, mais est aussi, dans un sacré paradoxe, aussi source essentielle de vie, c'est-à-dire c'est une source nutritive qui est importante, mais on ne peut pas complètement comparer les choses. Alors, il est vrai qu'on peut avoir des compulsions, comme on appelle ça aussi des cravings au niveau des substances psychoactives, vers le sucre, avec un sentiment un peu de perte de contrôle, comme si on n'allait pas, c'est pas bon pour nous, mais on continue à consommer. Ce qu'on va plus aujourd'hui au niveau de la recherche, c'est qu'on est plus addict, si vous voulez, au plaisir procuré par la saveur sucrée, ou par le sucré plus en fait, par la saveur sucrée, et c'est plus, on va dire, une addiction à ce plaisir procuré qui va nous donner envie de retourner vers le sucre, beaucoup plus que le sucre en lui-même, hein, donc à différencier de des substances psychoactives comme l'alcool, le tabac, le cannabis, qui sont des substances, et lorsqu'on est addict, on est addict à la substance, on est addict à la nicotine, on est addict à l'alcool, on est addict au tétrahydrocannabinol. Là, au niveau du sucre, c'est plus au plaisir procuré par le sucre auquel on va vouloir se retourner à nouveau. Qui est à, peut-être même à comparer peut-être un peu aux addictions comportementales, un peu différemment que l'ingestion de sucre à proprement dit. Donc on n'est pas réellement, on a des circuits qui se mêlent, qui sont similaires, hein, on a le plaisir, mais comme on a aussi du plaisir lorsqu'on a des rapports sexuels, comme on a du plaisir lorsqu'on passe un bon moment avec des amis, on va utiliser les mêmes circuits neuronaux que l'addiction, sans pour autant que ce soit une maladie. Et puis, ce qui est vrai, qui est un peu compliqué, c'est que le sucre, on ne peut pas vraiment vivre sans. Et donc, du coup, on peut se dire, mais comment trouver un peu ce juste milieu? Et c'est pour ça que moi, je compare un petit peu aussi à l'addiction comportementale, où l'addiction comportementale, l'objectif, ce n'est pas forcément de ne plus jamais avoir ce comportement, mais plutôt de réapprendre à le contrôler.
Très intéressant. Donc, si j'ai bien compris, on n'est pas forcément accro au sucre lui-même, au produit sucré, mais à l'effet neurologique que fait le sucre sur nous, sur nos papilles. C'est une nuance qui est importante parce que effectivement, ça peut expliquer pourquoi aujourd'hui il y a un nouveau problème qui est le problème des produits light, des produits zéro, qui créent une vraie addiction. Et aux États-Unis notamment, on sait que il y a de plus en plus de gens qui sont vraiment accro au soda zéro sans sucre avec de l'édulcorant. Et pourtant, il n'y a pas de sucre. Donc là, on voit que la différence, ça peut avoir son importance. D'ailleurs, c'est un sujet que je traiterai plus tard. Moi, je le remarque quand même parce qu'aujourd'hui, je suis un régime sans sucre ajouté. Mais il y a quand même un certain plaisir, un circuit de récompense qu'on a quand on mange un produit sucré. Il y a vraiment, ça nous procure du plaisir et donc on a tendance à vouloir aller chercher ce plaisir-là.
Oui, Mais comme il y a plein de choses qui font du plaisir, qui procurent du plaisir, heureusement, il y a aussi ce que je voulais rajouter aussi, c'est que il y a aussi des éléments qui sont pas exactement similaires. Vous l'aviez dit tout à l'heure, les signes de sevrage, par exemple, lorsqu'on ne peut pas manger du sucre, ne sont pas du tout les mêmes signes de sevrage que l'on peut rencontrer face à une substance psychoactive, avec des signes physiques pour l'alcool, de tremblement, de sueur, d'hypertension, de douleur, pour les opiacés, par exemple. On ne va pas avoir ces signes aussi importants par rapport au sucre. Et par ailleurs aussi, on a ce phénomène, je vous disais, de tolérance, c'est-à-dire qu'on est obligé d'augmenter les quantités pour avoir le même effet. Avec le sucre, il y a quand même un phénomène de satiété associé qui fait qu'à un moment, on s'arrête quand même de consommer, ce qui est un peu différent des substances psychoactives où finalement, nous, on rencontre des gens qui consomment 6-8 litres d'alcool par jour, comme s'il n'y avait plus de limite à la quantité.
Merci en tout cas de nous aider à y voir plus clair, parce que c'est vrai que dans la presse, quelquefois, on peut lire des raccourcis ou des choses qui sont pas forcément exactes en termes de terminologie. Donc, on a bien compris les nuances et les différences. Néanmoins, on se rend compte que certaines personnes vont entretenir une relation assez peut-être dangereuse avec le sucre. Est-ce que vous, par exemple, dans votre cabinet, vous allez recevoir des personnes qui vraiment pensent avoir un problème d'addiction avec le sucre?
Il y a bien sûr des gens qui ont des comportements inappropriés et qui vont avoir des compulsions vis-à-vis du sucré, notamment la nuit, ou des compulsions dans une période de la journée répétitive, avec une perte de contrôle, avec une incapacité à changer, qui vont avoir des répercussions négatives comme on recherche dans toutes les addictions, c'est-à-dire une prise de poids, une obésité, un diabète, des conséquences négatives liées à ce comportement. Mais c'est quand même assez rare que les gens consultent uniquement pour ça. Mais souvent, chez nos patients qui ont des consommations de substances psychoactives problématiques, peut se surajouter cette addiction au sucre, ce comportement lié au sucre avec un phénomène de récompense. Et là, on est plus sur un rééquilibrage, plus qu'un phénomène d'abstinence, enfin un projet d'abstinence qu'on peut avoir pour d'autres substances.
Je comprends bien. Donc, dès qu'on a un problème d'addiction, par exemple, à d'autres substances, le sucre peut venir s'additionner à ce problème-là. Donc là, effectivement, il peut avoir des dangers. En tout cas, moi, j'ai pu m'apercevoir que ma consommation de sucre, elle était souvent liée à un état émotionnel. Par exemple, comme du stress, de l'ennui, de l'anxiété ou encore même de la colère. Alors, est-ce que mon impression, elle est exacte? Est-ce que vraiment, dès qu'il y a une émotion, on va vouloir peut-être essayer de la traiter avec du sucre? Est-ce qu'il y a un vrai lien?
Bah, évidemment. Évidemment que quand on n'est pas bien, on va chercher quelque chose qui va nous faire du bien. Évidemment, comme on va être attiré par quelqu'un qui aime bien faire du sport, et il n'est pas bien, il va aller faire du sport. Il n'est pas bien, il va appeler quelqu'un qu'il aime bien et qui va lui faire du bien. Et forcément, trouver quelque chose de sucré, c'est quand même assez facile. C'est quand même un accès assez facile. Et donc, on va très vite, avoir ce comportement. D'ailleurs, on utilise ça. Dès le plus jeune âge, il arrive que on utilise parfois de l'eau sucrée pour des bébés, pour les soulager face à des douleurs, comme à visée antalgique, apaisante, réconfortante. Donc oui, le sucre a un effet métabolique de satiété, de satisfaction, parce qu'on recherche une énergie et on va satisfaire cette énergie. Mais il y a aussi un effet hédonique, avec un plaisir perçu qui va faire du bien. Et quand on veut retrouver des amis, forcément, c'est autour d'une bonne table, pour manger quelque chose de bon, avec un effet récompense, avec ce désir, du coup, comme nous sommes des cerveaux humains extrêmement développés, on va mettre en mémoire que quand on fait ce comportement dès le plus jeune âge, ça fait du bien, et donc on va avoir envie de le recommencer. Et bien sûr que on recherche un effet plaisir, bien sûr.
Intéressant. Est-ce que vous me dites, ça me fait penser à autre chose. J'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui semblent être pas du tout ou très peu sensibles à cet effet réconfort du sucre, qui sont même, très peu intéressées par le sucre. Du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent être peut-être prédisposées, plus que d'autres en tout cas, à développer une relation un peu plus compliquée avec le sucre? Et si oui, est-ce que ça va être lié à notre enfance, à notre éducation ou à des facteurs génétiques?
Oui, c'est probablement plurifactoriel. Alors, ce n'est pas uniquement génétique. Dans certaines études, ils ont pu montrer quand même qu'il y avait une part génétique chez à peu près un tiers des gens. Donc, une part génétique, c'est-à-dire qu'on a, voilà, dans notre famille, il y a une sorte d'hérédité. Mais il y a aussi, dès le plus jeune âge, dès l'exposition prénatale, il y a certaines études qui ont pu montrer que lorsqu'on a été exposé dans la vie fœtale à du sucre de manière précoce, on aura une prédisposition. Bien sûr, si on a une symptomatologie dépressive, on a des symptômes dépressifs, comme on disait tout à l'heure, on parlait plutôt d'humeur fluctuante, mais lorsqu'on a des réels symptômes dépressifs, on va être plus à risque de chercher du réconfort, comme on va être plus à risque de prendre de l'alcool, comme on va être plus à risque de chercher du plaisir quelque part, et donc du coup, une prédisposition. Et bien sûr que l'environnement, l'éducation, le fait de manger de manière inappropriée dès le plus jeune âge, c'est vrai, la précocité de cet apport de sucre, ça d'ailleurs, je pense que l'industrie agroalimentaire l'a bien compris, que l'accès au sucre dès le plus jeune âge par des junk food, fast food riches en sucre peut favoriser bien sûr l'installation d'un trouble.
Oui, je me souviens d'une étude qui avait été réalisée sur des enfants, notamment qui avaient été nourris pendant le plus jeune âge avec des petits pots, qui, on le sait, ont tendance à contenir beaucoup plus de sucre par rapport à des enfants où les parents cuisinaient des produits bruts. Eh bien, on se rendait compte que les problèmes d'obésité ou d'addiction au sucre étaient plus importants chez cette part-là de la population. Donc, affaire à suivre et faire attention, du coup, dès le plus jeune âge, à ce qu'on peut donner à nos enfants. Il y a aussi, en plus des émotions et du facteur peut-être héréditaire, on sait aussi que en termes de génétique, l'environnement peut jouer un rôle aussi important. Et par exemple, je me souviens que dans les années 90, il y avait pas mal d'études qui mettaient en corrélation notre consommation de télé avec notamment le grignotage et l'obésité. Alors de nos jours, c'est vrai que Internet et les réseaux sociaux sont de plus en plus omniprésents par rapport à la télé il y a encore quelques années. Et est-ce qu'on peut faire du coup un lien entre notre consommation de sucre avec nos usages des réseaux sociaux? Alors, ça peut paraître un peu étrange, mais je vais vous donner un exemple sur un célèbre réseau social de photos, Instagram pour ne pas le citer. Moi, j'ai souvent dans mes recommandations, c'est des images qui me sont proposées en fonction des algorithmes qui vont identifier ma personnalité, on va systématiquement me proposer, alors ça va être soit des photos d'animaux, mais moi j'ai beaucoup de photos de desserts, de choses très sucrées. Et c'est vrai que du coup, ça me procure, quand je regarde ces photos-là, un espèce de plaisir. C'est assez étrange. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre notre usage de ces nouveaux médias et notre consommation de sucre?
Mais là, on est face à une des études les plus ancienne de notre existence du point de vue de la psychiatrie, on va dire, c'est le stimulus-réponse. Donc on a un stimulus et on a une réponse. Donc comme je vous disais, on a tous des sensibilités individuelles avec en mémoire des choses qui nous ont déjà fait plaisir. Et lorsqu'on les voit par un stimulus visuel et pas forcément gustatif, on va stimuler du plaisir. Et de voir quelque chose de plaisant peut procurer du plaisir sans forcément le manger. Et là, on n'est pas forcément là face à une addiction au sucre. Si vous voyez aussi une jeune fille qui vous plaît, que vous trouvez jolie, ben ça va vous procurer aussi du plaisir, sans pour autant que vous êtes en train de l'embrasser. Donc c'est un peu, si vous voulez, c'est une autre forme de stimuli. Et en effet, je pense que là, on touche quelque chose de fondamental, notamment par rapport à l'épidémie d'obésité. Par ce captage de points importants par nos téléphones et cette publicité un peu imposée, non choisie, on a un conditionnement et en effet un risque exponentiel de se diriger vers des consommations. Alors pas forcément avec un risque d'addiction, mais un risque d'obésité, un risque de surpoids, un risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, et d'autant plus avec ces nouvelles technologies qui nous apportent énormément d'avantages, et ben on a des nouvelles maladies qui se développent forcément. On a toute la possibilité d'avoir tout sans se déplacer. C'est bien, c'est extraordinaire, mais on a du coup moins d'activité physique et on va manger des choses qui ont un effet plus rapide pour gagner aussi du temps Et donc quelque chose qui a un pouvoir sucrant peut-être plus important. Voilà, mais je pense qu'on touche à quelque chose d'assez dangereux.
D'accord, donc il faut être vigilant avec ces nouveaux outils, ces réseaux sociaux et notamment les algorithmes qui les composent, parce qu'ils ont tendance malheureusement à se nourrir de nos petits travers. Il y a autre chose d'assez contemporain, c'est aussi ce qu'on peut appeler la pression sociale et notamment le manger-bouger. On nous dit de plus en plus de faire de l'exercice alors que paradoxalement les gens sont de plus en plus sédentaires. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai que la personne qui peut-être, on va dire, développe un phénomène de sédentarité, d'addiction au sucre, bah du coup va peut-être développer une forme de double peine en ayant un sentiment de culpabilité et de rejet des autres. Est-ce que c'est pas un risque d'aggravation ça pour certaines personnes?
Alors moi je trouve ça dommage en fait le fait que si vous voulez quand l'évolution des choses, l'évolution de la santé, l'évolution scientifique fait qu'on apprend de plus en plus de choses et aujourd'hui on sait beaucoup plus que voilà on sait que c'est pas bon et que c'est de trop manger, on évolue, même si ça fait longtemps qu'on sait que l'obésité n'est pas bonne pour la santé, on voit qu'il y a une explosion de l'obésité et donc du coup c'est important de bouger, c'est important voilà, on a une évolution médicale scientifique et on sait beaucoup plus de choses et les gens le vivent comme une frustration avec une privation de liberté alors que on apprend des choses et qu'on découvre des maladies, on découvre des choses et donc du coup bah on voit que c'est pas bon pour la santé et donc il y a une dynamique en disant voilà, on sait que ça c'est pas bon et ça c'est bon et les gens le disent oui mais moi j'ai toujours fait ça donc moi je veux pas changer et donc du coup ils le vivent comme une privation de liberté. Donc on n'est pas dans une double peine, on est juste que on sait plus de choses aujourd'hui face à tout ça, on évolue, la science évolue, on apprend, on découvre des choses. Et c'est pour ça que probablement on a fait beaucoup d'avancées notamment vis-à-vis du tabac et que ça bouge et qu'il y a moins de consommateurs de tabac qu'il y a quelques années, comme il y a moins de consommateurs d'alcool parce que les choses bougent, les mentalités changent et probablement que vis-à-vis du sucre qui est quelque chose avec lequel qu'on ne peut pas vivre sans hein, et qui est omniprésent, il faut accepter hein, que le sucre n'est pas que bon, voilà. Je pense que c'est un peu ça où faut peut-être aller. Après, il faut pas oublier la notion de plaisir. Je pense qu'il faut aussi pas non plus stigmatiser les gens, comme vous disiez, par rapport à cette histoire de culpabilité. Il faut pas oublier que le sucre procure du plaisir. C'est une des choses qui procure du plaisir dans la vie. Et donc, c'est important aussi non plus de pas non plus vouloir mettre les gens dans des cases.
Effectivement. Et une autre question que je me pose et que j'aurais peut-être pu vous poser au tout début de notre échange, mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'on commence à développer une relation peut-être toxique avec le sucre? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui doivent nous alerter?
Bah bien sûr, lorsqu'on a une perte de contrôle vis-à-vis des équivalents addictifs, c'est-à-dire que voilà, on se rend compte que tous les soirs on va manger un pot de glace, que tous les soirs on va avoir des difficultés à contrôler et à répéter les choses malgré les conséquences, et qu'on commence à avoir quelques conséquences de type prise de poids, problèmes cardiovasculaires, hypertension. Dans un cas plus extrême, un peu de diabète, et que on commence à avoir des difficultés relationnelles. Enfin, voilà, on commence à avoir des conséquences, et que on devient un peu irritable si on peut pas avoir les choses. Enfin, en tout cas, à partir du moment où ça provoque des conséquences négatives, là, il faut s'en inquiéter. Hein, et il faut s'en inquiéter. Alors il y a une échelle hein, qui a été validée en français, mais qui est pas sur le plan consensus. Hein, quand je vous disais, l'addiction au sucre, comme n'est pas vraiment consensuelle, elle n'est pas utilisée vraiment pour faire des diagnostics. Elle est juste pour orienter éventuellement. Et donc la consommation en grande quantité de produits, la compulsion alimentaire, le phénomène un petit peu de tolérance quand même avec des produits de plus en plus sucrés, des comportement avec plus de boissons sucrées de manière systématique quotidienne. Il faut commencer à se poser des questions par rapport à ça. Et donc l'idée, c'est pas d'arrêter complètement le sucre, mais de regarder. Moi, je dis souvent, même par rapport aux substances psychoactives en général, les gens viennent me voir et disent mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, où j'en suis. Je leur dis souvent de regarder leur consommation, de se regarder, hein, plutôt que de se laisser porter et de repérer uniquement ce qui est négatif. regardez pendant une semaine, deux semaines, regardez votre consommation, notez ce que vous consommez, vous regardez et en ayant un esprit un peu objectif, voilà, on appelle ça nous un peu un carnet de bord des consommations, lorsque on est un peu flou, on sait plus trop où on en est par rapport aux consommations, et puis après, souvent après, nous, par rapport aux patients qui consomment des substances de type alcool, cannabis, il y a des problèmes de mémoire, donc ils savent plus trop vraiment ce qu'ils consomment régulièrement. Donc on leur demande de faire un carnet de bord, et donc c'est bien de noter ces consommations pour repérer et noter son poids et voir s'il y a une évolution par rapport à ça. Se dire qu'on commence à être dans une consommation à risque si ça devient problématique, donc avec cette prise de poids et ces comportements qui sont problématiques au quotidien.
Justement, en début d'émission, vous m'avez dit qu'on était plutôt sur un rééquilibrage avec le sucre et non pas forcément sur une abstinence totale, tout simplement parce que déjà, le sucre, c'est un élément qui est vital à notre santé. Donc voilà, on a besoin pour vivre. Mais comment ça se passe concrètement quand une personne a des problèmes? Est-ce que, par exemple, c'est un processus qui est long d'avoir une meilleure relation avec le sucre?
C'est souvent des processus assez longs, puisqu'il y a souvent ça marche pas du premier coup, ça prend du temps. L'idée c'est pas un changement total et de devenir champion olympique de haut niveau au bout de 3 mois. Ça prend beaucoup de temps. Il faut s'autoriser aussi des entorses, il faut s'autoriser des plaisirs associés et pas être dans quelque chose de radical, parce que quelque chose de radical ça fonctionne pas. Hein, c'est contrairement aux substances psychoactives où c'est beaucoup plus facile finalement d'arrêter totalement. L'abstinence est beaucoup plus facile que la consommation contrôlée, hein, dans les substances psychoactives. Là, on est plus dans un rééquilibrage et il faut aller à son rythme et éventuellement se faire accompagner si on n'y arrive pas et accepter l'aide de l'autre aussi.
Effectivement, on comprend bien la difficulté. C'est vrai que quelquefois, ça peut être plus simple d'arrêter totalement quelque chose que de pouvoir le gérer, le rationaliser, avoir une maîtrise dessus. Ça demande peut-être beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de pas faire les choses de manière extrême ou trop brutale. Ça, c'est quelque chose que je m'aperçois effectivement au quotidien. Merci infiniment, docteur, pour toutes ces informations et de nous avoir aidé à y voir peut-être plus clair, loin de ce qu'on peut lire dans la presse ou dans certains documentaires qui cherche à peut-être à être un peu spectaculaire. On voit que la réalité des fois elle est un petit peu plus complexe. Merci infiniment et peut-être à bientôt. Cette conversation avec le docteur Koskas a été très rassurante. Ça m'a permis de mieux comprendre les véritables situations de dépendance. Avant de commencer ce défi, j'étais anxieux à l'idée d'arrêter les sucres ajoutés. J'avais déjà essayé par le passé de les supprimer, mais sans résultat, parce qu'après quelques jours, je tenais plus et je craquais. Finalement, avec le recul, je pense que je n'étais pas suffisamment assez motivé pour tenter une expérience pareille. Quelquefois, c'est peut-être plus simple de penser qu'on est addict à quelque chose et que du coup, c'est pas dans notre contrôle, un peu comme une forme de déresponsabilisation. Si aujourd'hui, je réussis mieux à cette expérience sans sucre ajouté, c'est peut-être parce que je suis déterminé à réussir cette fois-ci. Évidemment, c'est pas facile tous les jours, et plus particulièrement le soir, où j'ai vraiment envie de grignoter des choses sucrées. Quelquefois, je suis même à deux doigts de craquer. Je sais pas si je vais réussir à tenir jusqu'au bout comme ça. On m'a parlé des effets positifs que peut avoir l'hypnothérapie sur les petites dépendances et même les envies de grignotage. Il y a même des personnes de mon entourage qui ont réussi à arrêter le tabac grâce à cette discipline. Comme je suis un garçon plutôt curieux, j'ai envie d'en savoir plus. Ça peut peut-être m'aider à mieux vivre ces soirées où j'ai envie de craquer et de grignoter. Alors si vous voulez ne rien louper du prochain épisode, abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à me laisser une évaluation et à m'écrire un petit mot pour m'encourager ou me donner vos conseils et vos idées. Je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.